Alors, à l'évidence, c'est une maladie qui va toucher un nombre restreint d'individus. Donc, au niveau européen, donc, il n'y a pas de définition universelle pour ces maladies rares. Donc, il n'y a pas un chiffre qui est vraiment établi à l'international. Au niveau européen, ce seuil, il a été établi à moins d'un individu sur 2000. C'est donc la réglementation du médicament orphelin en 1999 qui a défini que toute maladie qui touche moins d'une personne sur 2000 aurait une désignation orpheline dans les processus de mise sur le marché de traitement. Aux États-Unis, par exemple, c'est une maladie qui se définit pour tout ce qui touche moins de 200 000 personnes. Et si on l'extrapole sur le 1 sur 2000, c'est même un petit peu plus fréquent aux États-Unis. Mais on parle aussi beaucoup de l'ultra-rare qui toucherait en fait moins d'une personne sur 50 000, ce qui est en fait la grande majorité des maladies rares. C'est qu'elles sont plutôt ultra-rares, où il y a des situations uniques ou des familles isolées à travers le monde avec une maladie donnée. Donc, en illustrant ça, donc un individu sur 2000, voilà ce que ça représenterait. Mais en fait, le rare est fréquent. Fréquent parce que on estime que 6% de la population mondiale est concernée par l'une des 7 000 maladies rares un peu qu'on répertorie. Mais tous les mois, on en découvre des nouvelles, on en publie des nouvelles. Et donc, les estimations qui sont là sont à peu près 350 millions au niveau mondial, environ 36 au niveau européen. Et au niveau suisse, on a admis que un demi-million de patients sont concernés par l'une de ces maladies rares. Donc, si on revient sur l'illustration de tout à l'heure, ben, on voit que le rare est fréquent parce que c'est pratiquement un individu sur 12 ou sur 15, selon les chiffres, qui est concerné au cours de sa vie par l'une de ces maladies. Donc, sans compter les apparentés, ce qui fait que voilà, tout le monde, a priori, connaît quelqu'un de près ou de loin avec une maladie rare. Donc juste pour vous montrer un petit peu que la connaissance aujourd'hui, les technologies font qu'on arrive à mieux identifier ces maladies, même si on n'a pas encore toutes les réponses dans certains cas, mais que régulièrement, donc de nouvelles maladies sont rapportées dans la littérature. Et donc plus ça va, plus le domaine devient extrêmement important. Mais ce qui est rare, c'est le traitement. Parce qu'effectivement, on les appelle aussi maladies orphelines. En tout cas, à l'origine, c'était là le terme d'orphelin. C'est orphelin de traitement. Et parce que 5% de ces maladies ont un traitement qui leur est spécifiquement dédié. Sinon, la plupart des maladies sont traitées au niveau symptomatique pour améliorer la qualité de vie. Aujourd'hui aussi, on peut dire que certaines sont orphelines de recherche ou orphelines d'intérêt politique. Mais il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué, en particulier pour les maladies un peu plus fréquentes, comme la mucoviscidose, la chorée d'Huntington, qui sera discutée plus tard. Le rare est génétique. 80% de ces maladies ont une cause génétique. Mais génétique ne veut pas dire forcément héréditaire. C'est des situations qui peuvent surgir dans une situation donnée, puis qui n'est pas forcément transmissible. Donc ça, c'est important que, dans le cadre de ces maladies, des conseils génétiques puissent être divulgués auprès des familles pour mieux comprendre et comment appréhender ces maladies, et puis surtout pour des plans de famille, de créer, d'avoir des enfants en particulier. Le rare est pédiatrique. Plus de 50%, voire même les deux tiers de ces maladies se déclarent à l'âge pédiatrique. Tous les cancers pédiatriques sont des maladies rares par définition. Le rare est chronique, parce qu'elles se définissent aussi comme des maladies invalidantes, chroniques, qui peuvent mettre le pronostic vital en jeu. Puis du fait de leur complexité, elles nécessitent des efforts combinés pour leur prise en charge. Et donc le taux de mortalité est assez élevé pour ces patients estimés à l'âge de 20 ans, avant l'âge de 20 ans. Le rare est hétérogène. Hétérogène, ça veut dire que comme elle touche plusieurs systèmes, donc du point de vue par exemple une atteinte cardiaque, une atteinte articulaire, ça complexifie l'identification de ces maladies. Donc l'accès au diagnostic devient complexe parce que il faut qu'on puisse avoir une vision globale de cette maladie. Est-ce qu'il y a un lien entre mes douleurs articulaires et le fait que je vois moins bien ou des troubles digestifs? Donc il y a vraiment cette hétérogénéité qui complexifie vraiment la présentation clinique, d'autant plus que même si une famille est porteuse d'une même mutation responsable du maladie, il y a une grande variabilité d'expression d'un individu à l'autre, même avec une même mutation. Donc cette hétérogénéité vraiment contribue à la difficulté de les reconnaître et de pouvoir les diagnostiquer dans des délais appropriés. Alors juste quelques exemples. Donc le hasard fait que la chorée de Huntington est en tête de liste, mais c'est vrai que la plupart de ces maladies ont des noms parfois exotiques ou autres, mais parce que décrites souvent par donc le nom est attribué parce que c'est le médecin qui l'a décrit ou parce que c'est le nom du patient. Donc peut-être que parmi ces noms-là, quelques-unes vous sont familières, mais il y a aussi donc toutes les anomalies des chromosomes, par exemple la chondroplasie qui est le nanisme en particulier, Enfin voilà, quelques-unes de ces 7000 maladies, et puis certaines, elles n'ont même pas de nom, c'est la mutation X, Y, parce qu'aujourd'hui, les technologies permettent d'identifier ça. Alors, qu'est-ce que ça implique pour les patients de vivre avec ces maladies rares? Donc, elles ont, parce qu'on dit que le rare est fréquent, donc je pense que c'est un message qu'il faut retenir. Mais on dit aussi qu'elles sont différentes, mais semblables, semblables dans leurs problématiques. La première, c'est la quête du diagnostic, la problématique de l'errance diagnostique qui peut prendre des années, le fait qu'il n'y ait pas d'informations sur ces maladies rares. Et tout ça entraîne des prises en charge qui sont inappropriées. Des patients qui subissent plusieurs traitements, des chirurgies qui sont complètement, souvent même... prétérite la situation et péjore donc le tableau clinique du patient, parfois des fois aussi un deuxième enfant qui naît, donc toutes ces prises en charge qui font que les choses sont encore plus compliquées pour les familles, en y ajoutant encore l'isolement psychosocial avec ses difficultés d'intégration professionnelle et scolaire, le fait qu'il n'y ait pas de connaissances scientifiques bien documentées pour la plupart de ces maladies, donc manque de traitement. Et puis cette insécurité juridique et de remboursement, toute l'errance administrative, parce que l'étape diagnostique est un combat déjà, une espèce de parcours du combattant, mais il y a ensuite toute la reconnaissance de cette maladie et de pouvoir accéder à des prestations. Donc justement, les trois principaux défis que ces patients rencontrent, donc comme je le disais, sont le premier défi, c'est accéder à ce diagnostic, puisqu'encore aujourd'hui, un individu, un malade sur trois est sans diagnostic. Malgré les technologies, il y a des situations où on n'a pas encore la réponse parce qu'on n'a pas encore les connaissances. Le deuxième défi, comme je l'ai déjà mentionné, c'est le traitement. Et puis le troisième, c'est le quotidien, c'est l'handicap, puisque deux malades sur trois ont un handicap sensoriel ou moteur. Cette enquête, juste pour vous illustrer les difficultés, bon, je pense que si on la refaisait aujourd'hui, parce que cette enquête date de 2004, faite par Eurordis, l'Organisation européenne des patients, avait révélé donc en 2004 que 25% des patients attendaient entre 5 et 30 ans pour avoir un diagnostic, qu'il y avait des faux diagnostics dans 40% des cas, que 35% des patients sont référés chez le psy, parce qu'effectivement, à un moment donné, on leur dit, écoutez, c'est dans la tête, et je pense que vous êtes un peu anxieux, déprimé, enfin voilà, on a des tas de témoignages dans ce domaine-là, et qu'évidemment, jusqu'à 9 médecins consultés. Donc, il faut prendre en compte le coût que ça a, tout ça, donc cette errance diagnostique, et de pouvoir aujourd'hui favoriser vraiment toutes les moyens pour qu'on puisse réduire ce temps diagnostique pour améliorer ces prises en charge. Évidemment, aujourd'hui, il y a des médecins qui vous diront, mais à quoi bon le diagnostic puisqu'il n'y a pas de traitement? Mais j'entends rien que d'avoir un nom, c'est important parce qu'il y a toute la problématique de la culpabilité aussi. Hein, parfois, des mamans qui pensent que c'est parce que leur trouble, la relation mère-enfant, etc., font que ça explique les troubles du développement ou du comportement. Mais donc, ça paraît évident que d'avoir un diagnostic va permettre une intervention médicale qui est appropriée, avec des accès à des prestations sociales. On va bien améliorer la transition pédiatrie-adulte, parce que très souvent, les patients, donc les jeunes adultes qui basculent dans cet âge, sont dispersés dans les différentes spécialités médicales avec des prises en charge complètement incoordonnées. Ça va permettre aux patients de s'autonomiser, de modifier son mode de vie, hein, de faire du planning familial, etc., de communiquer avec des groupes de soutien, parce que ça, de plus en plus, mon expérience avec la Helpline fait que les patients sont très demandeurs de pouvoir partager leur expérience, d'entrer en contact avec d'autres familles. Et puis clairement, ce lobby patient, ce patient partenaire et expérimenté, parce qu'il connaît mieux la maladie que vous bientôt, puisqu'il la vit au quotidien, font qu'ils ont largement contribué aux avancées politiques aujourd'hui dans ce domaine-là. Et puis évidemment, ce diagnostic va permettre une meilleure maîtrise des coûts de la santé. Donc toutes ces données ont été évaluées dans le cadre d'une enquête faite au Canada. Et donc voilà, quelles sont ces actions politiques, puisqu'au début des années 2000, donc ces maladies ont clairement gagné une reconnaissance en termes d'enjeux de santé publique. Alors rapidement, donc je ne vais pas revenir sur toutes les étapes, mais la dernière étape qui était très importante, c'est en 2017, l'Europe a mis en place des réseaux européens de référence, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs centres experts répartis dans les États membres qui communiquent entre eux, donc le réseau des maladies osseuses rares, des maladies métaboliques rares, des maladies rares de l'œil. L'idée étant de faire voyager l'expertise et qu'on puisse soumettre des situations complexes au sein de ce réseau pour accélérer dans le diagnostic, la connaissance, la recherche. Donc ça, c'est vraiment une étape importante auquel la Suisse aimerait adhérer un jour, parce que la Suisse ne peut pas être membre de ces réseaux faute de ne pas avoir signé des accords de soins transfrontaliers. Donc voilà. Et puis donc une fois qu'on a un diagnostic, bon après il y a aussi toute la problématique de comment améliorer cet accès, mais une fois qu'on a un diagnostic, les questions qui sont posées, c'est dire ok, mais qu'est-ce que c'est que cette maladie? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'il y a un spécialiste? Est-ce qu'il y a d'autres patients en Suisse en particulier ou ailleurs? Est-ce que c'est transmissible? Donc vraiment, on a besoin d'avancer dans mieux s'appréhender cette problématique. Et dans ce contexte-là, donc je vous signale juste le site d'Orphanet. Je ne sais pas si les gens le connaissent. Donc c'est un site qui a été créé par la France en 1997 et qui effectivement répondait à différentes problématiques identifiées, le manque d'information, l'isolement des patients, le manque de collaboration entre les experts, une recherche qui était complètement dispersée, comment recruter les patients pour les essais cliniques. Donc Orphanet a essayé de répondre à l'ensemble de ces données et donc il a été initié en France. C'est un site internet, orpha.net, qui est disponible en 8 langues et qui est accès gratuit, tout public, que ce soit des patients, des professionnels, des étudiants. Il est consulté environ 40 000 fois par jour. Donc vraiment, il y a une vraie... c'est la référence internationale. Et donc Orphanet a démarré en France, mais au fur et à mesure des différents, la Commission européenne a soutenu ce projet financièrement jusqu'encore récemment. Et donc 37 pays ont pu adhérer à ce consortium. Et chaque pays, donc moi je suis le contact suisse depuis 2001, et mon rôle à moi c'est d'identifier toutes les ressources expertes en Suisse. Où sont les associations de patients, les centres experts? Donc on a des critères prédéfinis. Toutes les données sont contrôle qualité. Donc quand c'est publié dans Orphanet, c'est que le processus a vraiment bénéficier de tout ça. Donc juste pour vous montrer rapidement, mais pour vous montrer que c'est une base de données qui est gigantesque, qui en décembre 2018 répertoriait pas loin de 24 000 professionnels, toutes activités confondues. Donc c'est un vrai mastodonte et donc le défi vraiment de pouvoir mettre à jour toutes ces informations est assez un défi pour tous, quoi, compte tenu des ressources financières qui sont assez limitées. Rapidement, comment ça se présente? Donc quand vous rentrez un nom de maladie, comme par exemple le syndrome de Marfan ici, vous avez la définition de la maladie, puis ensuite vous avez un résumé qui est disponible dans les 8 langues. Et puis là, sur le côté, vous avez d'autres textes, des liens PubMed, des textes pour le grand public, pour la recherche, pour l'anesthésie. Et dessous, tous les clics vous permettent d'accéder aux coordonnées de toutes ces ressources. Par exemple ici, est-ce qu'il y a un centre expert pour le syndrome de Marfan? Donc vous avez les pays, mais vous pouvez filtrer par pays. Et là, vous voyez qu'il y a un contact en Suisse. Et en cliquant là-dessus, vous avez encore les coordonnées, le site web. Donc vous pouvez aller beaucoup plus loin dans la recherche d'informations. Donc rapidement, la situation en Suisse par rapport à ces maladies rares, parce que la Suisse s'est réveillée 10 ans après, donc depuis 2010, les choses ont commencé quand même à basculer. Et là, on est passé du désert un peu à la pléthore. Voilà un peu tous les différents acteurs qui sont impliqués en 2019. Orphanet a été le premier sur le... Dans le domaine. Et puis on a créé ProRaris, l'Alliance des patients, qui est un vrai lobby aujourd'hui pour obtenir des actions politiques. On a la plateforme Info Maladies Rares, que je vais rapidement vous présenter sur une dia tout à l'heure. Mais enfin voilà, au niveau fédéral, les choses bougent. Et la COSEC, là au milieu, sur Berne, qui est la coordination nationale, qui a été créée en 2017. Donc l'antenne suisse est là, on est basé aux HUG depuis 2001, on est 3 personnes à travailler sur ça, et puis la difficulté en Suisse c'est de pouvoir financer de manière pérenne ce projet qui n'est pas encore garanti malgré le plan national suisse. Et puis cette fameux portail de Roman, donc qui est un peu une extraction des données Orphanet mais régionale pour que rapidement on accède à l'expertise en Romandie, qu'on a complété avec une helpline en 2014. Donc vous pouvez nous contacter par mail, par téléphone, et donc les patients nous sollicitent de plus en plus, ou les professionnels, pour accéder à de l'information, à des mises en contact, etc. Donc la Confédération s'investit pour les maladies rares en adoptant ce concept national en 2014, assurer un suivi médical de qualité dans toute la Suisse pour ses patients. Donc ça c'est en 2014 avec des mesures d'implémentation en 2015. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2019? Donc un détail important, et c'est un coup de gueule que j'ai encore signalé ce matin à la radio, c'est que ce concept national est dénué de financement. Donc 0 financement de la Confédération. Ils pensent que les cantons vont pouvoir gérer et puis qu'on va trouver des solutions. Toujours est-il, c'est qu'ils ont créé cette coordination, la COSEC, qui elle va coordonner l'implémentation de centres de référence pour les maladies rares à partir de l'année prochaine. Et les objectifs de ce concept, c'est d'améliorer l'accès au diagnostic, comme je vous dis, l'accès aux thérapies, de désigner des centres de référence nationaux, de mettre en réseau tout ça en espérant adhérer au réseau européen, et puis de rendre surtout l'invisible visible, parce que les maladies rares aujourd'hui ne sont pas codées dans les systèmes de santé, la grande majorité n'existe pas, et quand tu n'es pas dans les listes, ben on ne prend pas en charge. Et donc un registre suisse va être implémenté l'année prochaine pour rendre visible, et ça grâce à la nomenclature d'Orphanet qui attribue un code Orpha à chaque maladie. Et puis les autres objectifs, c'est de contribuer à la recherche nationale et internationale, former et informer donc les jeunes étudiants, les médecins, etc. Réviser la liste AIU qui aujourd'hui est complètement obsolète et qui répond, qui ne donne pas accès à pas mal de prestations. Et puis soutenir les patients, mettre des plateformes d'information à disposition pour pouvoir mieux les accompagner dans tous les processus. Et donc, un dernier mot, juste que tout ça ne s'est pas fait sans les patients. Donc, no policy without patients. Et c'est, les patients sont un vrai lobby aujourd'hui parce qu'ils ont l'expertise, ils ont les réseaux. Et c'est vrai que les réseaux sociaux et l'Internet qui a contribué. L'Internet, on peut en discuter après parce que oui, non, mais je pense que clairement, ça aide. Voilà, donc l'organisation des États-Unis a obtenu justement la réglementation du médicament orphelin en particulier, puis Eurordis a pu largement contribuer à l'adoption des actions citées là-dessus. Et puis chez nous, on a ProRaris, qui rassemble la plupart des associations de patients, et ils viennent de créer Unirare, parce qu'il y a des situations où il n'y a pas d'association, où les patients sont isolés ou sans diagnostic. Donc voilà, toutes ces structures pour que les gens se rassemblent, et plus fort on est ensemble, on est beaucoup plus fort. Donc voilà, ce qui est important de retenir, c'est que clairement, il est pratiquement impossible d'aider les patients avec maladies rares sans collaboration. Aucun pays ne peut avoir l'expertise pour l'ensemble de toutes les connaissances, les diagnostics, les prises en charge. Et donc, le travail de réseau est important. Pour moi, les trois mots-clés, c'est information avec un grand I de qualité, c'est mise en réseau et coordination de l'ensemble de tous ces acteurs pour améliorer au mieux et d'être le plus efficace possible. Voilà. Mm-hmm.